Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast des affaires classées. Je vous propose de revenir 3 décennies en arrière. Nous sommes en juin 1994 dans le petit village de Jeuze-d'Oloron. 3 malfaiteurs braquent et prennent en otage l'unique boulanger du village. Le butin est maigre, mais l'agression bouleverse durablement les 8 victimes. Qui sont ces malfaiteurs visiblement bien renseignés ?
Affaires classées. Sur France Bleu.
Jeudi 30 juin 1994, il est 3h du matin. La nuit est calme dans le petit village de Jeuze-d'Oloron et, hormis la lumière allumée dans le fournil de la boulangerie Pébosque, il n'y a pas un chat dans les rues, du moins en apparence. Comme chaque jour, cela fait une bonne heure déjà qu'Henri, le patron, est au boulot aidé de Patrick et Thierry, ses 2 fidèles collaborateurs. Affairés à leur tâche, les 3 hommes sursautent en voyant pénétrer par la porte arrière 2 individus cagoulés et armés. Ils hurlent et leur ordonnent de se coucher, ventre à terre, les mains sur la nuque. Henri, légèrement en retrait de ses 2 aides, tente de s'enfuir par la fenêtre qui était ouverte. Sa manœuvre sera vaine. Il se trouve à présent nez à nez avec un 3e homme, armé et cagoulé lui aussi, qui faisait le guet dans le jardin. Le boulanger n'a d'autre choix que de se rendre face à cet inconnu calme, déterminé, qui lui colle le canon de son fusil sur la bouche. Le voilà ramené illico dans le fournil, où il sera à son tour plaqué au sol, puis ligoté et bâillonné. « Où est le coffre-fort ? » hurle le chef du commando, visiblement très énervé. Henri tente de garder son calme. Il parlemente, explique que la clé du coffre-fort est déposée dans sa chambre à coucher au 1er étage, où son épouse dort à cette heure-ci de la nuit. Lui seul connaît le chemin. Les braqueurs acceptent donc de défaire ses liens afin de l'escorter jusqu'à la cache, tandis que le 3e tient en respect les 2 employés qui vivent la trouille de leur vie. Survient alors un imprévu. L'épouse, réveillée par le vacarme, sort de son lit et elle tombe nez à nez sur les 2 malfaiteurs.
Affaire classée sur France Bleu. Thierry Sagardolto.
Elle aussi est mise en joue, menacée de mort et sommée d'obtempérer. Réveillés à leur tour, les 2 enfants du boulanger réalisent immédiatement ce qui se passe. Philippe, le fils, tente le tout pour le tout. Il claque la porte de sa chambre au nez de l'un des malfaiteurs, qui la défonce à coups de pied et le prend à son tour en otage. L'angoisse, la peur sont à leur comble car ce sont maintenant 6 personnes qui se trouvent séquestrées dans la petite boulangerie de campagne, l'unique commerce de bouche de ce village de 200 âmes situé au cœur de la vallée de Josbé, sur la route menant de Navarinx à Oloron-Sainte-Marie. Chaque minute, chaque seconde qui passe leur semble une éternité. Les braqueurs, ayant enfin la clé du coffre-fort en main, leur a sonné de réunir les otages dans une seule pièce. Le chef du commando, un homme jeune, fébrile, de petite taille, brûle d'impatience. Il s'empresse d'ouvrir le coffre, mais quelle n'est pas sa déception de découvrir qu'il n'y a dedans qu'une modique somme de 2500 francs de l'époque, soit un peu moins de 400 euros, et une montre, mais sans grande valeur. Les braqueurs imaginaient sans doute mettre la main sur un gros magot d'espèces, en cash. Fâcheuse méprise. Ce butin, trop modeste à leurs yeux, va soudain alourdir l'atmosphère. Certains que le boulanger leur cache l'endroit où il range le reste de ses économies, les 3 hommes haussent le ton, devenant encore plus agressifs, plus violents, aux grandes dames de leurs otages effrayés. Voilà qu'ils les enferment maintenant dans le chai, fouillant à grand bruit l'ensemble de la demeure à la recherche du magot.
France Bleu. Affaires classées.
Le charivari nocturne va finir par réveiller les premiers voisins de la boulangerie qui ne sont autres que René Pébosque, le frère du patron, et Stéphane, son neveu. René ouvre le volet de sa chambre au rez-de-chaussée. Malgré l'heure très matinale, il découvre que l'atelier de la boulangerie et les pièces de l'étage sont allumées. Bizarre. René distingue dans la pénombre de la cour un individu cagoulé. Il lui demande ce qui se passe. « Rien !» répond l'inconnu, avant que ne retentisse l'explosion d'une première détonation. Instinctivement, René claque le volet pour se protéger. Il pense à un voleur occupé à dérober son véhicule. Stéphane, son fils, vole à son secours, armé de son fusil de chasse. Lui aussi ouvre le volet, mais mal lui prend. Il essuie à son tour une seconde détonation. Fort heureusement, sans conséquence. Les trois malfrats réalisent qu'il est grand temps maintenant de partir sans réclamer leur dû. Ils montent à bord d'une Renault de type R21 immatriculée en Gironde et prennent la fuite dans la nuit noire. René et son fils se précipitent à l'intérieur de la boulangerie où ils délivrent enfin les six otages de leur calvaire. L'alerte est donnée. Les gendarmes déclenchent sur le champ le plan épervier. Sans résultat pour l'instant. Place à l'enquête. Un vol à main armée commis de nuit en rase campagne par trois individus visiblement bien renseignés sur le plan des lieux. Soit il s'agit de malfaiteurs aguerris, soit il s'agit de familiers des lieux comme un client, un proche parent, voire un ancien employé. Interrogé le matin même, Henri Pébosque a pourtant bien une petite idée sur la possible identité du chef du trio.
France Bleu, affaire classée, Thierry Sagardolto.
En se remémorant chaque détail de la tragique expédition nocturne, l'artisan boulanger livre plusieurs détails clés aux enquêteurs de la brigade de recherche d'Oloron. Le meneur était de petite taille, ses yeux, son phrasé, ses ricanements et surtout sa parfaite connaissance des lieux lui font étrangement penser à l'un de ses anciens apprentis, un certain Christian Joyeux. Un jeune homme en souffrance qu'il avait accueilli en 1990, six mois durant, à la demande de l'œuvre de l'abbé Denis. Ému par son enfance souffrante, la famille Pébosque l'avait accueilli les bras ouverts. Christian le leur rendit fort mal. Déjà connu de la justice pour de petits larcins lorsqu'il était adolescent, il ne trouva pas mieux que de voler de l'argent à M. Pébosque, puis de se battre avec un employé en le blessant à l'aide d'une arme. Le boulanger de Jeus n'eut d'autre choix que de renvoyer cet apprenti bien dans le pétrin. Fâché, le garnement revint un an plus tard, en 1991, afin de dérober quelques 30 000 francs installés dans le coffre familial, emportant ainsi les économies de la grand-mère. Pour les gendarmes, le profil de ce suspect, né et vivant à Bordeaux, colle à merveille. En effet, le véhicule des braqueurs ne provenait-il pas de Gironde ? Côté indice, les objets abandonnés dans leur fuite comme un fusil de chasse à pompe, des cordelettes et des douilles ne révèlent hélas aucune empreinte digitale exploitable. L'enquête criminelle prend aussitôt la route de la Gironde où le suspect numéro 1 sera arrêté mi-juillet en compagnie d'un compère avec lequel il s'apprêtait à monter à bord d'un véhicule volé. Question, ces deux-là sont-ils les braqueurs de la boulangerie de Jeus ?
Affaires classées sur France Bleu.
Placés en garde à vue, les deux suspects passent vite à table. Christian admet qu'il est le cerveau de l'opération. Il a choisi la cible, le jour et les moyens pour y parvenir, notamment une Renault 21 volée 10 jours plus tôt à La Brenne, en Gironde, et les trois carabines dérobées chez un chasseur domicilié en Dordogne. L'opération était donc rondement préparée. La découverte du véhicule des braqueurs à Lormont livre de nouveaux indices dont les empreintes digitales des deux comparses. L'un se prénomme Pascal, l'autre Jean-Frédéric. Si les trois garnements admettent avoir agi par besoin d'argent, ils contestent avoir nourri l'intention de tuer le frère et le neveu de M. Pébosque avec l'arme de chasse. René et Stéphane sont pourtant convaincus du contraire. Les deux tirent au fusil dans leur direction. Ils visaient bien à les tuer. Leur procès s'ouvre 2 ans plus tard devant la cour d'assises à Pau, le 28 mars 1996. Qui sont les trois accusés ? Des pieds nickelés dans le pétrin, comme l'écrit le journaliste de Pyrénées Presse, ou bien de dangereux malfaiteurs désireux de grimper dans l'aristocratie du grand banditisme. Leurs jeunes biographies sont pourtant très semblables. Une enfance piétinée, une scolarité gâchée, des adolescents en rupture de ban avec leur famille, bref, un cocktail explosif qui les fera se réunir, s'admirer et se coaliser, puis passer à l'action. Devant ses juges, le leader, Christian Joyeux, dit pourtant regretter ses gestes. Et pour s'amender, il lirait, dit-il, les livres du docteur Freud en prison. Vérité ou provocation ? Pour la cour, les trois desperados réfléchiront à leurs actes de 7 à 10 années derrière les verrous.
Affaire classée sur France Bleu. Thierry Sagardoito.
Tout sauf joyeux, c'était le podcast que je vous proposais de découvrir aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouvel épisode d'Affaires classées, un inédit intitulé « Un dimanche de printemps ». Nous serons en 2014 sur un village de campagne à Saint-Pé-sur-Nivelle. Et figurez-vous que ce dimanche 18 mai, une jeune femme appelle au secours sur le bord de la route. Elle affirme aux automobilistes qui passent que sa fillette est en état de détresse respiratoire. Sa survie serait même une question de minutes. Question. Que s'est-il passé sur le bord de la route reliant Saint-Pé-sur-Nivelle à Biarritz ?